Donc je disais, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les versets 11 à 26. Donc acte 3, des versets 11 au verset 26, et nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, ces versets que nous venons de lire nous placent dans une scène à la fois qui est bouleversante, mais aussi profondément évangélique. Dernièrement, nous avons vu un homme qui était boiteux depuis sa naissance et qui vient d'être guéri à la belle porte du temple. Il était porté chaque jour pour demander l'aumône. Il dépendait des autres pour survivre. Il était proche du temple, proche du lieu d'adoration, mais son cœur brisé témoignait de la misère introduite par le péché dans le monde. Puis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au verset 6, Pierre lui dit, « Lève-toi et marche. » Aussitôt, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Il entre dans le temple en marchant, sautant et louant le Dieu qu'il avait rétabli. Et donc, ce miracle est visible. Ce miracle est public. Ce miracle est incontestable. La foule le connaît. Elle sait qu'il était infirme. Et maintenant, la foule le voit debout en train de louer son Dieu. Mais Luc ne veut pas que nous restions fascinés par ce miracle en lui-même. Le miracle est un signe. Il n'est pas le centre du passage. Ce miracle pointe vers quelque chose de plus grand. Ce miracle pointe vers Jésus-Christ. Et dans les actes, les miracles ne servent jamais à glorifier les apôtres. Ils attestent que Jésus est vivant, qu'il est exalté et qu'il agit encore par son esprit. Et donc, Pierre comprend cela. Et donc, lorsque la foule accourt vers lui et Jean, il ne saisit pas l'occasion pour attirer l'attention sur lui-même. Il ne transforme pas la puissance de Christ en une réputation personnelle. Ce qu'il fait est remarquable. Il détourne les regards des hommes et il les fixe vers Jésus. Et c'est la marque d'un ministère qui est fidèle. Ne pas retenir les âmes autour de l'instrument, mais de les conduire vers le Sauveur. Le message de Pierre est clair. Ce Jésus que vous avez rejeté, Dieu l'a glorifié. Dieu l'a glorifié. Ce Jésus que vous avez renié, Dieu l'a reconnu. Et ce Jésus que vous avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité. Dieu a glorifié Jésus, le prince de la vie, que les hommes ont rejeté, afin que les pécheurs se repentent, reçoivent l'effacement de leurs péchés. Et donc, nous méditerons ce passage en trois points. Mon premier point, le prince de la vie, glorifié, détourne nos regards des hommes vers son nom et vers sa gloire. Mon deuxième point sera, le prince de la vie, rejeté, révèle notre péché et accomplit les Écritures. Mon troisième point, le prince de la vie, ressuscité, appelle à la repentance et promet la vraie bénédiction à son peuple. Et donc, sans plus tarder, mon premier point, le prince de la vie, glorifié, qui détourne au regard des hommes vers son nom. Et donc, lorsque nous regardons au verset 11, nous lisons, « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, a couru vers eux au portique dit de Salomon. » On remarque que l'homme qui était guéri reste attaché à Pierre et Jean. Et c'est complètement compréhensible parce que ce sont les instruments que Dieu a utilisés pour le guérir. Ces deux hommes ont été des instruments visibles de sa guérison. Lui qui ne marchait pas du tout et il marche maintenant. Lui qui était porté entre maintenant dans le temple pour adorer. Lui qui demandait l'aumône, loue maintenant Dieu et glorifie son Seigneur. Et donc, la guérison a produit non seulement une restauration physique, mais aussi une réponse d'adoration. Et donc, on le voit, la foule, elle est stupéfaite, elle accourt et elle est étonnée. Et donc, ce miracle attire des regards. Ce miracle suscite des questionnements. Et donc, le danger spirituel ici apparaît immédiatement. La foule fixe ses yeux sur Pierre et Jean. La foule regarde Pierre et Jean. Elle voit les instruments, mais elle risque de manquer celui qui agit à travers eux. Et donc Pierre répond alors au verset 12. Il dit, on dit, Pierre voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Ici, Pierre refuse que ce miracle leur soit attribué. Il refuse, comme on peut dire, il refuse cet honneur. Ils ne sont pas des guérisseurs autonomes, Pierre et Jean. Ils ne disposent pas d'une puissance qu'ils pourraient manipuler selon leur volonté. La puissance, elle vient de quelqu'un de plus grand. Elle vient de Jésus-Christ. Et ensuite, Pierre refuse que le miracle soit attribué à leur propre piété. Et c'est très important pour nous. Il ne dit pas que Dieu a agi parce que nous sommes particulièrement saints. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Et le mot traduit par piété évoque la dévotion, la crainte de Dieu, une certaine révérence. Et même cela, Pierre ne veut pas en faire la cause du miracle. Le serviteur, l'instrument, n'est pas le sauveur. L'instrument, le serviteur, n'est pas la source de la grâce. Et cette précision est pour nous, en tant qu'Église et en tant que chrétiens, une grande exhortation. Nous devons être reconnaissants pour les instruments que Dieu utilise. Les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, les frères et sœurs, nos parents, nos conseillers. Nous devons être reconnaissants pour ces instruments que Dieu a mis sur notre chemin. Mais nous ne devons jamais donner à l'homme la gloire qui revient à Christ. Et Paul dira en 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Voilà exactement l'attitude de Pierre. Il sait qu'il est un vase de terre, mais que le trésor, c'est Christ. Et Jésus lui-même avait dit, en Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et cette parole détruit toute prétention humaine. Toute prétention humaine. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Sans Christ, il n'y a pas de fruit durable. Et sans Christ, il n'y a pas de vraie puissance spirituelle. Si Dieu se sert d'un homme, cela ne fait pas de cet homme la source de la grâce. Cela manifeste seulement la liberté que Dieu a de choisir et d'agir à travers des instruments que lui-même a choisis et des instruments qui sont faibles. Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, en méditant sur l'humilité des apôtres, souligne combien Pierre refuse de recevoir l'admiration qui appartient au Seigneur. Il ne laisse pas la foule s'installer dans une mauvaise lecture du miracle. Il corrige immédiatement l'erreur. Voilà une leçon pour tout ministère. Lorsqu'un homme devient grand aux yeux des autres, il doit devenir petit à ses propres yeux et dire « Regardez à Christ ». Ne regardez pas à moi. Ne regardez pas à nous. Mais regardez à Christ. Et Pierre poursuit au verset 13, où nous lisons « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Pierre ne présente pas Jésus comme une nouveauté qui est détachée de l'Ancien Testament. Non. Il parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de l'Alliance. C'est le Dieu qui a appelé Abraham en Genèse 12. C'est le Dieu qui a promis une descendance et une bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse en Exode 3 comme le Dieu des patriarches. Et donc en disant cela, Pierre affirme que l'évangile de Jésus-Christ est l'accomplissement de l'histoire biblique. Le Dieu qui a parlé au Père a glorifié Jésus-Christ. L'évangile n'est pas un plan de secours. Il est l'accomplissement du dessein de Dieu. Ce n'est pas un hasard. La croix n'est pas un hasard. C'est l'accomplissement du dessein de Dieu. Et Pierre appelle Jésus son serviteur. sans serviteur. Ce terme évoque le serviteur de l'Éternel annoncé par Ésaïe. Nous lisons en Ésaïe 52, verset 13. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Puis Ésaïe annonce que ce sauveur sera méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il sera blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Pierre proclame que ce serviteur humilié est maintenant glorifié par Dieu. Le miracle du boiteux doit donc être compris à la lumière de l'exaltation de Jésus. Ce n'est pas Pierre qui a relevé l'homme par lui-même. Pierre et Jean étaient des instruments. Mais c'est Dieu qui est la source de bénédiction. C'est lui qui est la source de la guérison. C'est le serviteur glorifié qui agit encore. Celui que les hommes ont rejeté est vivant. Celui qui est monté au ciel manifeste encore son règne sur la terre. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Et Pierre explique cela au verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Le nom de Jésus ici est central. Dans la Bible, un nom désigne la personne, l'autorité, la puissance et la révélation de celui qui le porte. Le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. C'est Jésus lui-même, dans son autorité vivante, qui agit avec puissance et autorité. Et en acte 4, verset 12, nous lirons, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Pierre parle aussi de la foi ici. Mais la foi n'est pas présentée comme une puissance indépendante. Elle n'est pas une œuvre humaine qui forcerait Dieu à agir. Elle est la main vide qui reçoit Christ. Elle regarde à lui, elle s'attache à lui, elle reçoit de Christ. Et Pierre ajoute que cette foi vient de lui. Même la foi est un don de la grâce. Comme Paul enseigne en Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Et donc, un prédicateur peut annoncer l'Évangile, peut annoncer Christ. Mais seul Dieu donne la lumière. Seul lui agit. Un frère peut exhorter, mais seul l'Esprit vivifie. Seul l'Esprit agit. Nous lisons en Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ, mais cette parole doit être appliquée au cœur par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas à nous en tant qu'instruments. Nous proclamons ces vérités. Mais c'est Dieu, Christ, par son esprit, qui l'applique dans le cœur des gens. L'exhortation ici est donc claire. Ne fixons pas nos regards sur les hommes. Ne fixons pas nos regards sur les instruments que Dieu choisit selon sa sagesse parfaite. Ne faisons pas dépendre notre espérance d'un prédicateur, d'un ministère, d'une prédication, d'une tradition, ou de quoi que ce soit. Tout ce que nous devons faire, c'est de regarder à Christ. De regarder à Christ. De nous reposer sur Christ. Parce que c'est son nom qui sauve. C'est son nom qui relève. C'est son nom qui affermit. Et c'est son nom aussi qui donne la vie éternelle. Amen. Mon deuxième point, le prince de la vie, rejeté, révèle notre péché et accomplit les Écritures. Et donc, après avoir détourné les regards de lui-même vers Christ, Pierre expose dans sa prédication la culpabilité de ses auditeurs. Donc là, il pointe ses auditeurs. Il dit au verset 13, « Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. » Puis il ajoute, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Pierre ici ne passe pas par quatre chemins pour parler exactement du péché. Il en fait le diagnostic clair. Il ne le caresse pas au sens du poil, non. Il est direct. Il met le doigt sur la faute précise. Vous avez livré, vous avez renié, vous avez demandé la libération d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. C'est une grande accusation. Et donc, la Bible, en elle-même, commence par diagnostiquer le cœur du pécheur. Nous lisons quoi en Jérémie 17, verset 9 ? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ? C'est notre cœur. Et donc, ici, Pierre expose cette méchanceté. Devant le saint et le juste, les hommes ont préféré Barabbas. Devant l'auteur de la vie, ils ont choisi la mort. Devant le Messie promis, ils ont crié « Crucifie-le ». Et le contraste ici du texte est très puissant. Les hommes ont livré Jésus, mais Dieu l'a glorifié. Les hommes ont livré Jésus, mais Dieu l'a glorifié. Les hommes ont choisi un meurtrier, mais Dieu a exalté le saint et le juste. Les hommes ont fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité. Remarquons ici que Pierre appelle Jésus le saint et le juste. Le saint et le juste. Le titre saint souligne son entière consécration à Dieu, sa pureté absolue et son absence totale de péché. Il n'avait commis aucun péché. Il n'avait commis aucune faute. Et l'ange avait annoncé à Marie en Luc 1, verset 35, « Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Et le titre « juste » ici souligne sa conformité parfaite à la justice divine. Pilate n'avait trouvé en lui aucun crime. Aucun. Et même en Luc 23, verset 41, le brigand sur la croix dira « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Et pourtant, ce saint et ce juste a été rejeté par les hommes. Pierre l'appelle ensuite le prince de la vie. Et le mot grec pour désigner le chef ici, le prince, donc le chef, l'auteur, le pionnier, celui qui ouvre le chemin. Jésus est l'auteur de la vie. Et en lisant Jean 1, verset 4, nous lisons « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Colossiens 1, verset 16 affirme que tout a été créé par lui et pour lui. Donc ils ont crucifié le prince de la vie. Et donc l'ironie ici est tragique. Les hommes ont décidé de faire mourir celui qui était l'auteur de la vie éternelle. Ils ont tué celui sans lequel ils ne peuvent pas vivre. Ils ont rejeté celui qui seul pouvait les sauver. Mais, frères et sœurs, nous ne devons pas lire ce texte comme de simples spectateurs. Il serait facile de regarder cette foule de Jérusalem avec indignation et de dire « Comment ont-ils pu faire cela ? Comment ont-ils pu faire cela ?» Et pourtant ce texte révèle le cœur humain, le cœur de l'homme. Par nature, nous aussi, nous résistons au règne du Christ. Et nous préférons notre autonomie. Nous préférons vivre éloignés de Dieu, éloignés de sa Seigneurie. Nous voulons le pardon de Dieu, mais nous gardons nos idoles. Nous voulons le soulagement, mais pas toujours la repentance. Nous lisons en Jean 3, verset 19. « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Voilà notre problème. Le péché n'est pas seulement une erreur morale. Non. Le péché, c'est une préférence désordonnée. Saint Augustin, un autre père de l'Église, a décrit le péché comme un amour mal orienté. Un amour mal orienté. Il dit « Aimer la créature plus que le créateur, c'est s'aimer soi-même jusqu'au mépris de Dieu. » C'est un amour désordonné, mal orienté. Parce que nous aimons la créature au lieu du créateur. À la croix, ce cœur de pécheur est dévoilé. L'homme naturel ne veut pas du saint et du juste. Il veut préserver son pouvoir, il veut préserver son orgueil, il veut préserver sa liberté, mais une liberté qui est illusoire. Parce qu'il est enchaîné par le péché. Pourtant, Pierre ne s'arrête pas là, à la culpabilité humaine. Il ajoute au verset 15 que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et donc, la résurrection est la réponse de Dieu au rejet des hommes. Les hommes l'ont rejeté. Ils ont rejeté le prince de la vie. Ils l'ont fait crucifier. Mais Dieu, ce qu'il a décidé de faire, c'est de le ressusciter. Et il a répondu au crime des hommes. Les hommes ont condamné Jésus. Dieu l'a justifié. Les hommes l'ont humilié. Dieu l'a exalté. Les hommes l'ont mis au tombeau. Dieu l'a ressuscité. Romains 1, verset 4 dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection est la déclaration publique de Dieu. Celui que vous avez rejeté est mon fils. Celui que vous avez crucifié est le Seigneur. Celui que vous avez mis à mort est le prince de la vie. Et donc Pierre va encore plus loin au verset 18, où nous lisons « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. » Et donc ce verset, pour nous, est fondamental. Il est fondamental pourquoi ? Parce que la croix n'est pas un accident. La croix n'est pas un accident. Elle est l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Les hommes ont agi librement et coupablement, mais Dieu a accompli souverainement ce qu'il avait annoncé par les prophètes. En acte 2, verset 23, nous avons lu « Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Et pourtant les hommes l'ont crucifié par des mains iniques. » L'homme est responsable de son péché. Nous sommes responsables de notre péché. Dieu est souverain dans son dessein. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais il règne même sur le mal et l'utilise pour accomplir le salut. Rien n'a été plus injuste que la mort du Fils de Dieu. Lui qui était innocent. Lui qui était sans péché. Et pourtant, rien n'a été plus nécessaire pour notre salut. Ésaïe 53, verset 10 dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Lui qui était innocent, qui n'avait rien fait. Non parce que le Père prend plaisir à la cruauté, non. Mais parce qu'il a voulu sauver son peuple par le sacrifice de son serviteur. Ésaïe 53, verset 10, on continue. « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. » Et John Stott, dans ses commentaires sur le livre des Actes, a souvent rappelé que la croix est le lieu où se rencontrent la justice et l'amour de Dieu. Dieu ne pardonne pas en fermant les yeux sur le péché. Dieu ne pardonne pas en fermant les yeux sur le péché. Il pardonne parce que le péché a été porté à la croix par son Fils. La croix ne minimise pas notre culpabilité, non. La croix révèle notre culpabilité. Mais elle révèle aussi une grâce plus grande que notre culpabilité. Et Pierre dit ensuite, au verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » C'est vrai qu'il les attaque, mais cette parole est pleine de miséricorde. Il pointe leur péché, mais il fait preuve de miséricorde. Jésus lui-même avait prié sur la croix, en Luc 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et l'apôtre Paul, en 1 Timothée 1, verset 13, nous lisons « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et Paul dira qu'il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par ignorance. et cette même foule de Jérusalem agissaient par ignorance et par incrédulité. Et cela ne veut pas dire que l'ignorance sauve. Pas du tout. Cela signifie que Dieu, dans sa patience, appelle les ignorants à la repentance. Jean Chrysostome voyait dans la prédication de Pierre une sagesse pastorale. Il accuse, mais pour guérir. Il blesse, mais pour appliquer le remède. Il ne flatte pas ses auditeurs, mais il ne les enferme pas non plus dans le désespoir. Voilà ce qu'est une exhortation biblique. Elle expose le péché avec clarté, mais elle ouvre aussi largement la porte à Christ. Frères et sœurs, recevant cette parole, ne minimisons pas notre péché. Ne minimisons pas notre péché. Ne cherchons pas à excuser notre péché. Reconnaissons notre tort. Ne disons pas seulement c'est ma faiblesse, mon tempérament, mon histoire, mon arrière-plan. Non. Appelons le péché par son nom. Mais ne désespérons pas non plus. Le Christ que les hommes ont rejeté est celui que Dieu a ressuscité pour sauver les pécheurs. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Mon troisième point, le prince de la vie. Ressuscité appelle à la repentance et promet la vraie bénédiction. Et donc, après avoir annoncé Christ et exposé le péché, Pierre lance l'appel de l'Évangile au verset 19. « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ici, le mot « donc » est très important. Pierre ne lance pas un appel moral qui est détaché de l'Évangile. Il appelle à la repentance à cause de ce qu'il vient d'annoncer. Donc il a annoncé Christ, et donc là il dit, répentez-vous donc, et convertissez-vous. Il appelle à la repentance à cause de ce qu'il vient d'annoncer. Jésus est le Seigneur glorifié, le Saint et le Juste, le Prince de la vie, ressuscité par Dieu, annoncé par les prophètes. Et l'Évangile n'est pas seulement une information à comprendre ici. C'est une convocation divine. Ici, nous avons une convocation qui est divine. Et Pierre utilise deux verbes. Répentez-vous et convertissez-vous. Répentir et se convertir. Se répentir, dans la Bible, ce n'est pas seulement regretter son péché. Ce n'est pas seulement être triste des conséquences du péché. C'est un changement profond devant Dieu. C'est reconnaître son péché, c'est haïr son péché, c'est s'en détourner et revenir au Seigneur. Et se convertir signifie se tourner, revenir, faire demi-tour. Faire demi-tour. Et ce langage est enraciné dans l'Ancien Testament aussi. Nous lisons en Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et en Joël 2, verset 13, nous lisons, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Et revenez à l'Éternel. Il y a toujours cet aspect de revenir, de faire demi-tour. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Et donc la repentance biblique touche donc le cœur de l'homme. Elle n'est pas simplement extérieure. Elle n'est pas seulement une émotion, elle est un retour à Dieu. Et donc elle implique de quitter ses idoles, de quitter sa propre justice, de quitter son orgueil, de quitter sa duplicité et de venir à Christ. Mais il existe aussi une fausse repentance. Il existe une fausse repentance. En Matthieu 27, versets 3 à 5, nous lisons, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas a eu du remords. Mais il n'est pas revenu au Seigneur. Il aurait pu faire demi-tour, aller vers son Seigneur, se repentir et demander pardon. Mais il a décidé de se pendre. On peut être triste d'avoir été découvert dans un péché quelconque, mais sans haïr le péché. On peut vouloir la paix de la conscience sans vouloir l'obéissance de la foi. On peut vouloir que Dieu efface les conséquences sans vouloir qu'il règne sur nos cœurs. Mais Pierre appelle à une repentance sincère ici. Revenir à Dieu par Christ. Revenir à Dieu par Christ. Et quelle en est la promesse lorsque nous revenons à Christ? Quelle en est la promesse dans la suite du passage? Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Le verbe effacer ici évoque l'idée d'enlever une inscription, d'essuyer ce qui est écrit, comme sur une ardoise. Nos péchés sont comme un acte d'accusation contre nous. Et lorsque nous nous repentons, sincèrement, Dieu dans sa grâce efface notre péché. Nous lisons Colossiens 2, verset 14. Que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En le détruisant par la croix, voilà la grâce. Dieu n'ignore pas la dette. Il efface parce que Christ l'a porté sur la croix. En Jean 1, verset 7, nous lisons, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et lorsque nous nous arrêtons sur ces versets, considérons encore à qui parle Pierre ici. Il parle à ceux qui ont rejeté Christ. Il parle à ceux qui ont rejeté le Saint de Dieu. Le prince de la vie. Il parle à ceux qui ont préféré Barabbas. Et pourtant, Pierre ici leur annonce l'effacement des péchés. C'est incroyable. Et ça, pour nous, on peut se dire, quelle espérance. Quelle espérance pour nous. Aucun pécheur repentant ne doit désespérer. Aucun pécheur repentant ne doit désespérer du pardon de son Dieu. Si Christ offre le pardon à ceux qui l'ont rejeté publiquement, il peut pardonner ceux qui viennent à lui aujourd'hui avec un cœur brisé. C'est tout un espoir pour nous, toute une espérance. Et Pierre ajoute au verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Le péché fatigue. Le péché nous éloigne de Dieu. La culpabilité nous écrase. L'éloignement de Dieu dessèche. Et c'est pourquoi il parle de rafraîchissement. Et David l'a exprimé, l'a expérimenté, lorsqu'il disait au psaume 32, verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Mais lorsqu'il confesse son péché, il découvre la joie du pardon. Psaume 32, verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Heureux. Les temps de rafraîchissement parlent du soulagement que Dieu donne à l'âme qui est pardonnée. C'est la paix avec Dieu. En Romains 5, verset 1, nous lisons, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas une paix éphémère. Elle n'est pas comparable à la paix que nous cherchons dans ce monde. C'est la paix avec notre Dieu. Nous pouvons enfin respirer devant Dieu parce que notre dette est effacée. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous sommes réconciliés avec notre Seigneur. Et Pierre poursuit en parlant de Christ au verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Jésus, notre Seigneur, est au ciel. Il règne et il fait tout ce qu'il veut. Mais n'oublions pas une chose. Il reviendra. Il reviendra. Le salut ne se limite pas au pardon individuel, même si ce pardon est merveilleux. Il inclut l'espérance de la restauration finale. Le boiteux guéri est un signe ici. Un corps brisé est relevé, un homme exclu entre dans la louange. Mais ce n'est qu'un avant-goût du jour où Christ restaurera toutes choses. C'est un avant-goût. Romains 8, verset 21 dit que la création elle-même sera libérée de la servitude de la corruption. Apocalypse 21, verset 5 annonce « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le rétablissement final viendra par le retour du prince de la vie. Nos corps seront ressuscités dans la gloire. La création sera renouvelée. Le péché ne déformera plus rien. La mort ne régnera plus, la justice habitera dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Et Pierre montre ensuite que Jésus est le Christ promis par les Écritures. Il cite, en Actes 3, verset 22, il cite littéralement Deutéronome 18. « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Moïse avait annoncé un prophète comme lui. Moïse était médiateur de l'ancienne alliance. Il avait conduit le peuple hors d'Égypte. Il avait reçu la loi. Il parlait au peuple de la part de Dieu. Mais il annonçait un plus grand prophète. Pierre dit, ce prophète, c'est Jésus. Jésus n'est pas seulement un enseignant parmi tant d'autres. Jésus est la parole faite chair, selon Jean 1, verset 14. Il est la parole faite chair. Nous lisons Hébreux 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Écouter Jésus n'est donc pas optionnel. Refuser sa parole, c'est refuser Dieu. Et Pierre ajoute que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé, littéralement retranché du peuple. Au verset 23. On ne peut pas appartenir véritablement au peuple de Dieu tout en rejetant Christ. Et l'exhortation ici est directe. Écoutons Jésus. Écoutons Christ. Pas seulement lorsqu'il console, mais aussi lorsqu'il nous reprend. Pas seulement lorsqu'il promet le repos, mais aussi lorsqu'il dit, à Marc 8, verset 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et Pierre rappelle enfin la promesse faite à Abraham. Au verset 25. « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. » Cette promesse vient de Genèse 12, verset 3. Dieu avait promis qu'en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Une promesse de l'ancienne alliance. Paul expliquera en Galates 3, verset 16, que cette descendance trouve son accomplissement en Christ. Jésus est la postérité promise. En lui, la bénédiction déborde vers les nations. Mais quelle est cette bénédiction? Quelle est cette bénédiction? Pierre répond au verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Pierre ne définit pas d'abord la bénédiction comme la santé ici, ni comme la richesse, ni comme le pouvoir sur le monde, non. Ou comme le confort, la réussite. La bénédiction est centrale ici. C'est d'être détourné de ses iniquités. D'être détourné de ses iniquités. Christ nous bénit en nous pardonnant, mais aussi en nous transformant. Il ne nous sauve pas pour nous laisser dans le péché. Il nous délivre de la culpabilité du péché et de sa domination. L'apôtre Paul, en Tite 2, verset 14, dit que Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui n'appartient pas au monde, mais qui appartienne au saint et au juste Jésus-Christ. Voilà la vraie bénédiction. Appartenir à Christ, être purifié par lui, être détourné du mal et marcher dans une vie nouvelle. Frères et sœurs, Demandons-nous honnêtement quelle bénédiction nous cherchons. Quelle bénédiction cherchons-nous? Voulons-nous seulement que Dieu améliore nos circonstances? Ou nous voulons qu'il nous délivre de nos iniquités? Voulons-nous qu'il nous donne toutes les richesses du monde? Ou nous voulons marcher en communauté de foi, en parfaite communion avec lui, et en vivant l'évangile qu'il nous donne? Voulons-nous seulement la paix, ou voulons-nous le règne de Christ sur nos cœurs? Le Christ ressuscité ne donne pas une bénédiction superficielle. Il donne la vraie bénédiction. Il donne le pardon, il donne le rafraîchissement, la résurrection. Il donne la restauration, l'obéissance de la foi et l'espérance de son retour. Pour finir, ces versets que nous venons de lire et d'exposer nous montrent le cœur de la prédication chrétienne. Pierre aurait pu attirer les regards de la foule sur lui. Il aurait pu se faire passer pour celui qui sauve, pour celui qui agit. Mais il détourne les yeux de la foule vers Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui est la source de toutes les provisions. C'est lui qui est la source de la grâce. C'est lui qui est la source de la joie, de la paix. Et c'est lui qui nous pardonne nos péchés. Pierre annonce le serviteur glorifié. Il annonce le saint et le juste, le prince de la vie, le prophète promis, la descendance d'Abraham. Il annonce aussi notre péché. Parce que les hommes ont rejeté Christ. Ils l'ont renié et ils l'ont mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a glorifié. Dieu a accompli par ses souffrances ce que les prophètes avaient annoncé. Ce qui fait que la croix pour nous n'est pas un accident. Lorsque nous regardons à la croix, nous avons l'assurance de notre salut. Nous avons cette joie que nous avons un Christ qui s'est fait chair, qui s'est humilié, lui qui était sans péché, qui est mort pour nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle. Et maintenant, ce Christ vivant appelle les pécheurs. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà l'évangile. Nous avons péché contre Dieu. Dieu, nous ne pouvons pas effacer nos fautes nous-mêmes. C'est seul Jésus-Christ, par son sang versé pour nous, nous lave de nos fautes. Dieu l'a ressuscité. Et celui qui se répand et se tourne vers lui reçoit l'effacement de ses péchés, les temps de rafraîchissement et l'espérance du rétablissement de toutes choses. Ne fixons pas, frères et sœurs, nos regards sur les hommes. Ne fixons pas nos regards sur les instruments que Dieu choisit. Ne minimisons pas notre péché. Ne cherchons pas une bénédiction superficielle. Regardons à Christ, regardons au prince de la vie. Écoutons le prophète promis, recevant le pardon, revenons à Dieu et marchant dans l'espérance du jour où Christ restaurera toutes choses dans sa gloire.